Le 18-20, c'est d'abord le premier grand journal de la soirée. Est-ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mercredi 2 mars avec le journal de Fabien Fourel?
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir, Fabien, commence d'abord par une ville martyre.
Kharkiv pilonné, Kharkiv fragilisé, mais Kharkiv, le point levé, la seconde ville du pays résiste au bombardement. On verra pourquoi elle est la cible majeure ce soir de la Russie, alors que l'opposant russe Alexei Navalny lance un appel à manifester contre la guerre du fond de sa prison. À la une également la mort de Jean-Pierre Pernaut, présentateur star du 13h de TF1. Il était atteint d'un cancer. Yvan Colonna agressé par un détenu dans sa prison d'Arles. Il est ce soir en état de mort cérébrale. Nous serons à Arles. Et puis la campagne de Marine Le Pen reprend au Salon de l'Agriculture après l'épisode des parrainages.
À 18h15, dans Un jour dans le monde, cette autre guerre invisible qui se joue en Ukraine. Il y a une guerre avec des blindés, des troupes, des bombardements. Un autre front économique avec des sanctions multiples, mais aussi une cyberguerre avec d'autres formes d'attaques destinées à désorganiser l'adversaire, des groupes qui perturbent les communications, volent des informations stratégiques, brouillent les pistes et font de la propagande. À 19h20, un téléphone sonne spécial solidarité avec les Ukrainiens. Vous le savez, France Inter est mobilisée toute la journée pour leur venir en aide. L'Europe va être confrontée à un flux inédit de réfugiés. Comment y faire face? Et pour ceux restés là-bas, quelle aide leur faire parvenir et comment? Vos suggestions, vos propositions, nous serons entre autres avec la directrice de la Fondation de France, Axelle Davezac.
France Inter. Mais d'abord, la disparition d'une voix qui a marqué la télévision française durant 33 ans.
Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, notre petit coup d'œil habituel sur les prévisions météo d'Evin Delia.
Durant 33 ans, il a commencé son journal de la même manière, par la couleur du ciel. Jean-Pierre Pernaut était une étoile de la télévision, l'un des derniers présentateurs stars du PAF. Il était atteint d'un cancer du poumon. Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir Fabien.
Du service culture de France Inter, Jean-Pierre Pernaut s'en est donc allé aujourd'hui.
Et oui, c'était le présentateur des régions. Ce natif d'Amiens débute le journalisme à 22 ans, avec à l'époque un objectif, le courrier Picard, la presse écrite de sa région. Et presque par hasard, il débarque ensuite à l'ORTF Amiens-Picardie où il découvre la radio. Et quand l'ORTF disparaît et que TF1 le voit le jour en 1975, il est embauché quelques jours plus tard, là aussi pour du reportage. Il va côtoyer Yves Mourouzi, dont il prendra la suite. Il le raconte des années plus tard, encore avec émotion.
J'ai eu la chance de travailler avec Mourouzi pendant 3 ans, dans les années 75 à 78, et me retrouver à sa place, évidemment, ça a été un choc immense pour moi. Là, on me proposait de remplacer la star.
Et la signature particulière de Jean-Pierre Pernaut dans les années qui vont suivre, c'est bien sûr la proximité et les territoires.
À 13h, on a entendu les accents de toutes les régions, et moi j'adore sentir la France telle qu'elle est. C'est ça qu'on essaie de rendre dans le journal, c'est de raconter la France telle qu'elle est, de raconter la vie telle qu'elle est. La fierté, c'est tout simplement d'avoir fait un journal qui me ressemble.
Et il va présenter le 13h de 1988 à 2020, 32 ans, une longévité hors norme, stoppée par un cancer. Son journal était suivi chaque jour par 6 à 7 millions de fidèles, un record européen à la mi-journée.
Et franceinter.fr retrace la carrière ce soir de Jean-Pierre Pernaut.
L'actualité se bouscule aussi ce soir du côté de l'Ukraine.
Et oui, des paroles et des actes donnent le tempo de la soirée. D'un côté, le président de la République, Emmanuel Macron, il s'exprimera dans 2 heures à la télévision. De l'autre, les pourparlers russes ukrainiens qui doivent reprendre. Et pendant ce temps, sur le front, la Russie muscle son invasion. Mariupol, au bord de la Crimée, menacée. L'armée russe dit avoir fait tomber Kherson. Mais il est une ville qui tient bon. Kharkiv, sous les bombes, depuis plusieurs heures. Bonsoir Vanessa Descoureau.
Bonsoir.
Vous êtes l'une des envoyées spéciales de France Inter en Ukraine. Kharkiv, c'est une ville, Vanessa, hautement stratégique pour les Russes.
Oui, on peut remonter au temps de l'URSS même pour comprendre tout ça. C'est la porte d'entrée du Caucase et de la Crimée. Pour les Russes, l'enjeu est bien au-delà du fait de prendre une grande ville. C'est de l'ordre du symbole parce que c'est une ville russophone. Mais le pouvoir de Moscou est violemment contesté, comme le montre évidemment la résistance de ces dernières heures. Ville russophone donc, et limitrophe du Donbass avec les territoires séparatistes déjà reconnus par Vladimir Poutine. Kharkiv, dans la tête du président russe, c'est la prolongation territoriale et idéologique de son pouvoir déjà acquis dans ces territoires. Enfin, il y a un dernier aspect pour évoquer l'importance de Kharkiv dans ce schéma de Moscou. Et là, il est purement militaire. C'est sa proximité géographique avec la frontière. 50 kilomètres seulement. Cela permettrait aux troupes russes d'avancer leur base au plus près de Kiev. Ce ne serait ni plus ni moins qu'un appui, pour avancer dans le reste du pays.
Merci Vanessa Descoureau avec Marc Garvenès à la technique. La capitale regarde avec inquiétudes. Kharkiv se faire pilonner. Pour l'heure, l'assaut sur Kiev n'a pas commencé. Pour des problèmes logistiques côté russe, la progression du convoi militaire de plus de 60 km de long dont on vous parle depuis plusieurs jours sur Inter, eh bien cette progression a dû s'arrêter. La colonne de blindés était confrontée à des pénuries d'essence et au sabotage de ponts sur la route de Kiev. La Russie veut effacer l'Ukraine et son histoire. Les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une vidéo évoquant les frappes russes près des lieux d'un massacre commis par les nazis, tandis que le premier ministre anglais Boris Johnson accuse la Russie de crimes de guerre. Bref, les condamnations sont nombreuses, y compris, et c'est plus étonnant, depuis la Russie, où l'opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, a lancé depuis sa prison un appel à manifester tous les jours contre la guerre. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a posté son message. Sylvain Tronchet à Moscou pour Inter.
Ne devenons pas une nation de peureux qui font semblant de ne pas voir la guerre brutale déclenchée par notre petit tsar complètement fou. Sur son compte Twitter, dans une série de messages passés via ses avocats, Alexei Navalny appelle les Russes à descendre dans la rue pour protester tous les soirs à 19h et le week-end à 14h. L'opposant sait bien que ces manifestations seront interdites et réprimées. D'après l'ONG spécialisée OVD, près de 7000 personnes ont déjà été arrêtées en Russie lors de rassemblements anti-guerre. Tout a un prix maintenant, écrit encore Alexei Navalny, et nous devons payer ce prix. Jusqu'à maintenant, rares sont les Russes néanmoins qui ont osé sortir dans la rue. Non seulement ils savent qu'ils risquent au moins 15 jours de prison, et d'autres racontent que des pressions ont été exercées sur leurs employeurs pour qu'ils soient licenciés. Ce soir, quelques manifestants sont signalés dans Moscou. On verra dans les prochains jours si l'appel de l'opposant a un poids. Son organisation est aujourd'hui interdite et de nombreux militants ont fui la Russie. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et j'ajoute qu'Israël fait part de sa colère ce soir autour de l'invasion russe et des mots de Vladimir Poutine qui parle de dénazifier l'Ukraine et qui a donc lâché des bombes sur le site du massacre nazi de Babi Yar à Kiev où se trouvaient les restes de près de 34 000 juifs massacrés durant l'occupation.
De longues files de voitures sur le bord de la route, des femmes, des enfants, des poussettes.
L'exode se poursuit vers la Pologne, principale porte de sortie des Ukrainiens qui fuient l'enfer des affrontements. Ils sont plus de 800 000 à avoir quitté le pays en une semaine et sur cet axe, il fait à peine 0 degré. Les routes sont gelées, un exode rendu plus difficile encore pour de nombreux étudiants étrangers. Ils sont près de 78 000, notamment originaires d'Afrique et d'Asie, parfois refoulés. Le reportage à la frontière polonaise de Sarah Bakologlou.
Couverture sur le dos, Grovinder peine encore à réaliser qu'il est enfin arrivé en Pologne. Après avoir marché 30 km, cet étudiant indien a mis 3 jours pour réussir à traverser la frontière, en raison, dit-il, de son pays d'origine.
À plusieurs reprises, j'ai essayé de passer. À chaque fois, les gardes ukrainiens m'ont dit « Non, ce sont d'abord les femmes et les enfants qui passeront. Vous, les Indiens, vous ne passerez pas. » Nous avons essayé pendant 3 jours, sans dormir, sans manger, parce que si vous dormez, vous perdez votre place.
Then other people will pass. Si tous les étrangers que nous avons interrogés n'ont pas eu de problème à traverser la frontière en raison de leur nationalité, Clinton, un Ougandais de 24 ans, paraît lui sous le choc. Il est arrivé dès jeudi dernier au poste frontière, mais ce n'est qu'hier qu'il a pu traverser.
Quand on est arrivé au poste frontière, ils ont fait passer avant nous les Ukrainiens avec des documents de résidence. Quand on a essayé de se plaindre, les gardes ukrainiens nous ont tapé avec des bâtons. J'ai été frappé plusieurs fois. Ils nous ont laissé dormir dehors, on a dû faire un feu pour se réchauffer et ils l'ont éteint.
Plusieurs pays, dont le Nigeria, ont dénoncé ce lundi les discriminations dont ont été victimes leurs ressortissants du côté ukrainien de la frontière. De leur côté, l'Ukraine et la Pologne ont démenti toute différence de traitement. Chemiche, Sarah Bakaloglou, France Inter.
Eux voulaient-ils repartir dans leur pays d'origine? Des légionnaires ukrainiens en service pour l'armée française arrêtés tôt ce matin dans le 16e arrondissement de Paris. 14 légionnaires soupçonnés d'avoir voulu retourner en Ukraine pour combattre les Russes. Et une nouvelle provocation signée cette fois de l'Ukraine. Elle invite, je cite, les mères des soldats russes capturés sur son territoire à venir les chercher. Kiev affirmant avoir fait des dizaines de prisonniers. On reviendra sur cette tentative d'intimidation dans le journal de 19h d'Hélène Fini. Et puis lui avait promis de revenir vers nous. Emmanuel Macron s'exprimera ce soir 20h à suivre en direct sur Inter. Une allocution autour de l'Ukraine, de la situation, nous dit-on, à l'Elysée, mais pas sur la présidentielle. Un mélange des genres qui serait malvenu selon l'entourage du chef de l'État. Il a été l'ennemi public numéro 1 de la France, son visage placardé dans toutes les mairies, les préfectures, les gares, les commissariats. Yvan Colonna, en état de mort cérébrale, recherché pendant 5 ans, puis condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, celui qui rêvait de l'indépendance de la Corse, a été agressé aujourd'hui dans le gymnase de la maison d'arrêt d'Arles, dans laquelle il purgeait sa peine. Bonsoir Benjamin Mathieu.
Bonsoir.
En direct d'Arles pour France Inter, c'est un autre détenu, Benjamin, qui serait à l'origine des coups.
Yvan Colonna est qualifié de détenu exemplaire par l'un des surveillants pénitentiaires avec qui j'ai pu parler. Un détenu qui ne faisait pas d'histoire et qui purgeait sa peine normalement. Une agression que les personnels de surveillance n'ont en tout cas pas vu venir pour Edino Vaujac, secrétaire local FO Justice et surveillant pénitentiaire également ici.
Ça nous surprend parce que les deux s'entendaient bien. Il n'y avait aucun signe de signalement entre les deux détenus. On le sait parce que moi aussi je suis surveillant, donc je sais comment ça se passe entre les deux. Je tourne dans le détention dans ce bâtiment-là, donc il n'y avait jamais aucun problème entre les deux détenus.
Deux détenus qui se connaissaient et purgeaient leur peine dans le même bâtiment, selon cet autre surveillant, Thomas, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, mais qui est également délégué de la région PACA, UFAP, UNSAP, Justice. Celui qui a agressé Yvan Colonna n'avait rien laissé paraître avant de tenter de l'étrangler.
Il semblerait que le détenu, connu pour les faits de terrorisme, se soit pris de façon violente au détenu Colonna, sans que préalablement il y ait un échange verbal ou autre. C'est quelqu'un qui avait un comportement fermé auprès tout simplement du personnel. C'était quelqu'un de discret.
Ce détenu de 36 ans est emprisonné pour association de malfaiteurs liés à l'islam radical. Yvan Colonna, qui est lui dans un état de coma post-anoxique suite à la privation d'oxygène, il est en cours de transfert vers un hôpital de Marseille.
Benjamin Mathieu en direct d'Arles avec à la technique Lucien Lefebvre. Sachez que l'inspection générale de la justice va donc être saisie pour faire toute la lumière sur les conditions de cette agression. Quand une ancienne ministre de la Justice dénonce une forme d'injustice, Christiane Taubira renonce à se présenter à la présidentielle à 3 jours de la date butoir. La candidate issue de la primaire populaire ne dispose que de 181 signatures validées, loin des 500 nécessaires. Et selon Christiane Taubira, les partis n'ont plus que leur capacité de nuisance. Nous ne sommes pas dans un régime de séparation de pouvoir, a-t-elle ajouté, taclant au passage les grands partis qui n'en finissent plus, selon elle, d'agoniser. Relancer sa campagne au milieu du monde de la campagne. Marine Le Pen était en visite au Salon de l'Agriculture après l'épisode des parrainages. Elle avait interrompu sa course à la présidentielle pour se consacrer à la recherche des 500 signatures. Dans les allées du salon, elle est venue porter un message à l'adresse des agriculteurs. Élodie Fauré l'a suivie.
C'est une partition que Marine Le Pen, troisième campagne présidentielle, connaît par cœur. D'une main flatter cet impressionnant taureau charolais.
Ils sont vifs, hein ? Ah, ils n'aiment pas qu'on leur touche la tête, faut même le dire avant.
De l'autre, promettre des mesures d'urgence pour les agriculteurs, puis pour les images, s'offrir un petit zouk au stand de la Guadeloupe. Une visite au salon de 7 heures sans surprise ni fausse note donc, mais avec cette année la crainte d'une campagne occultée par la guerre en Ukraine. Alors Marine Le Pen lance un appel.
Emmanuel Macron est président de la République, certes, et il a cette casquette-là quand il œuvre sur le plan diplomatique pour essayer de trouver une solution, une issue à la guerre en Ukraine. Mais il n'en demeure pas moins qu'il va falloir qu'il prenne son autre casquette, qui est la casquette de candidat à la présidentielle, parce qu'il doit un bilan aux Français.
Puis la candidate du RN reprend les selfies. Éleveurs laitiers retraités Gérard et Jean-Claude sont pro-marine.
Tous les autres, c'est des rigolos.
Mais anti-Zemmour.
On ne peut pas mettre un homme comme ça au gouvernement. Ça ferait une guerre, à tous les coups. Hein.
Plus loin, Mercedes veut elle aussi son selfie, mais votera Emmanuel Macron. Au Salon de l'Agriculture, une photo ne vaut pas soutien.
Voilà pour ce Salon de l'Agriculture qui se poursuit évidemment. Enfin, pour trouver les réjouissances, il faut parfois tendre l'oreille. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a confirmé ce midi que nous sommes en train de sortir de la phase aiguë de l'épidémie de Covid. Un tiers de cas en moins en une semaine. On rappelle qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, espère toujours faire tomber le masque en intérieur si les indicateurs le permettent à compter de la mi-mars.
Et c'est tout bientôt. Merci Fabien, n'oubliez pas de revenir dans Sous les radars car la criminalité déborde par exemple au Mexique et vous nous en reparlerez. Ce soir, nous écouterons une fois de plus le récit à la première personne de ces Ukrainiens qui survivent sous les bombes. Chaque jour, un peu plus poignant, récit recueilli par Caroline Gillet. Nous suivrons les danseurs du ballet de Kiev, ils achèvent ce soir leur tournée en Gironde. Et ils ne savent pas à quoi va ressembler leur avenir et celui de leurs proches dont ils sont séparés. C'est un reportage de Manon Vautier-Chollet. Et puis en deuxième heure, un téléphone sonne spécial solidarité. Comment peut-on aider concrètement les Ukrainiens? Il y a encore peu de réfugiés arrivés en France, mais sur place, 1 million de personnes ont été déplacées et commencent à manquer de tout. Quelle aide? Comment? Qu'êtes-vous prêt à faire? Si vous êtes investi dans des associations, vous pouvez nous appeler dès maintenant. Le standard est ouvert. Vous connaissez le numéro 01 45 20 24 7000. Mais tout de suite, un petit coup d'œil sur le ciel.
la météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
À l'ouest du Nouveau, de la pluie.
Oui, effectivement, la perturbation d'aujourd'hui ne sera pas encore évacuée, qu'une nouvelle perturbation va nous arriver par l'Atlantique. Des pluies circuleront entre la Bretagne, la Vendée et le Cotentin le matin, et elles progresseront très lentement, puisque l'après-midi, elles s'étaleront entre la Basse-Normandie, les Pays de la Loire, la Charente-Maritime et les côtes de l'Aquitaine. À l'avant de cette perturbation, les nuages seront encore imposants entre les frontières belges et le Midi-Toulousain. Le matin, quelques petites brunes seront même possibles, alors que le ciel va un peu se déchirer quand même l'après-midi. Le ciel de la Bretagne va aussi s'éclaircir demain après-midi. Et puis le long des Pyrénées et du pourtour méditerranéen à la Lorraine et l'Alsace, la journée s'annonce plus ensoleillée, hormis sur la Corse et les Alpes-Maritimes, où les nuages seront omniprésents et parfois porteurs d'averses.
Et les températures seront en hausse.
Oui, déjà cette nuit, l'ambiance sera un peu moins froide, même si on attend encore des gelées sur le Grand Est, l'arrière-pays provençal, voire la Corse. Demain après-midi, les maximales gagneront aussi quelques degrés, puisque la nouvelle perturbation s'accompagne d'air plutôt doux. Il fera 11 degrés à Brest, Le Havre et Amiens, 12 degrés à Lille, Nantes et La Rochelle, 13 degrés pour Paris, Reims, Metz et Bastia, 14 degrés à Mulhouse et Besançon, 16 degrés à Lyon, Toulouse, Marseille et à Montpellier, et on ira jusqu'à 17 degrés à Perpignan.
Merci Sébastien.